débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Après Paris, la semaine dernière, c'est à Bruxelles aujourd'hui que les éleveurs se sont rassemblés pour manifester leur colère devant les ministres de l'Agriculture européens réunis justement pour évoquer leurs problèmes. Le malaise exprimé remet les projecteurs sur la façon dont l'agriculture va s'organiser dans l'avenir. La mondialisation, les réglementations, les contraintes environnementales ont bouleversé les modes de production alimentaire et les orientations à prendre sont sujets à controverse. Alors faut-il maintenir la production intensive, l'exportation, les subventions? Faut-il au contraire favoriser les petites exploitations, les circuits de proximité, réorienter les aides dans cette direction? Quel avenir pour l'agriculture en Europe? On va en parler avec nos deux invités de ce soir que je vous présente tout de suite. Bruno Parmentier est ingénieur, économiste, auteur de Nourrir l'humanité, c'est aux éditions La Découverte, et puis de Manger tous et bien, aux éditions du Seuil. Bonsoir à vous Bruno Parmentier.
Bonsoir.
Christiane Lambert est-elle la vice-présidente de la FNSEA, c'est la Fédération Nationale des syndicats d'exploitants agricoles, principal syndicat agricole français. Bonsoir à vous, Christiane Lambert.
Bonsoir, monsieur.
Alors, comment pourrait-on résumer, peut-être pour commencer, le message que veulent faire passer les manifestants à Paris hier, à Bruxelles aujourd'hui? Christiane Lambert.
Les agriculteurs français et les agriculteurs européens, parce que nous étions nombreux aujourd'hui à Bruxelles, vivent une crise très complexe. L'embargo russe y est pour beaucoup, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Monsieur Poutine a fermé il y a un an ses frontières à tous les produits agricoles et agroalimentaires. Au même moment, les marchés chinois s'effondrent. Au même moment, la sécheresse intervient. Au même moment, les conséquences de la dérégulation d'un certain nombre de marchés par le changement de la politique agricole, intervient aussi. Donc on a un cumul, une conjonction d'événements qui rendent les choses très compliquées. Et puis, vous l'avez dit dans votre introduction, dans une Europe à 28, on a un peu perdu l'origine de la PAC d'une Europe à 6. Aujourd'hui, à 28 pays, il y a des situations économiques, des situations sociales, des situations normatives, environnementales très 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 différentes. Et il est difficile d'avoir une vision commune. Donc il est temps de repenser une politique agricole. L'enjeu alimentaire est important. Plus important qu'il y a quelque temps. Les événements de 2008, la flambée des matières premières en 2007-2008 ont remis au devant de la scène l'importance d'avoir des politiques de régulation pour l'alimentation, parce qu'on ne gère pas l'alimentation comme la fabrication de boulons. L'alimentation, c'est capital, c'est stratégique, c'est source de stabilité ou d'instabilité pour un pays. Voilà pourquoi les politiques agricoles et alimentaires doivent être pensées avec une vision politique et stratégique.
Mmh. Bon, alors peut-être qu'on peut essayer de comprendre s'il y a nécessité d'ajuster la politique agricole actuelle ou si on doit remettre en cause de manière peut-être plus radicale le modèle dominant qui prévaut, c'est-à-dire cette agriculture intensive, voire industrielle. Bruno Parmentier.
Alors, agriculture intensive, attendez, c'est évident qu'il en faut. Il faut encore augmenter de 70% la production agricole mondiale. Donc là, il y a une petite crise de surproduction sur les produits animaux en Europe.
Mais dépit des problèmes
globalement
que cela pose
dans le monde, il faut arriver à nourrir 75 millions d'habitants de plus tous les ans. Hein, on va rajouter encore 2,5 milliards de bouches d'ici 2050. Et puis les immenses classes moyennes de tous les pays émergents du monde se mettent à consommer beaucoup de viande et beaucoup de lait. Et donc, indirectement, énormément de céréales et de soja, puisque la viande, le lait, c'est des céréales et du soja transformés. Mmh. Donc, il faut absolument augmenter. Par exemple, dans les 15 dernières années, la demande mondiale de céréales a augmenté de 40%. Voilà. Et il y a un vrai problème pour arriver à produire autrement, mais beaucoup. Parce que pour le moment,
mais
on
comment
produit...
arriver à concilier cela alors avec ces problèmes environnementaux qu'on nous dit absolument cruciaux et qui sont le résultat d'une agriculture intensive?
Alors, cette agriculture, elle est intensive en énergie, en chimie, en capital et en mécanique. Mmh. Mais elle n'est pas intensive en écologie, on va dire. Et donc, il faut remplacer cette agriculture intensive en ressources non renouvelables, en agriculture intensive en écologie, une agriculture écologiquement intensive. Ça, il faut faire travailler les vers de terre, les bactéries, les champignons, les mélanges de plantes, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est un changement considérable qu'on doit faire dans l'agriculture. Et puis, actuellement, en Europe, la crise, c'est pas tellement l'agriculture, c'est vraiment l'élevage. Mmh. Bon, l'élevage a un véritable problème de marché, c'est-à-dire, il y a dans tous les pays émergents une demande en explosion, Et puis, dans les pays riches, entre guillemets, États-Unis, enfin, Amérique du Nord et Europe du Nord, ça y est, on arrête d'augmenter la consommation, parce qu'on consomme plutôt trop. Donc, c'est vrai qu'il y a des ajustements, d'autant plus que ça circule pas très bien, les produits animaux, parce que c'est des produits frais. Ça circule beaucoup moins bien sur la planète que le grain ou le sucre, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'ajustement, et par rapport à ça, ce qu'on applique, actuellement, c'est l'abandon pur et simple, progressif, de toute idée de réguler l'agriculture. Depuis les années 50, aux États-Unis, en Amérique, mais aussi en Chine, etc., on a régulé cette activité parce que il faut manger tous les jours. Mais en fait, la production, elle dépend beaucoup du temps qu'il fait, d'une crise sanitaire, etc. Donc, c'est vieux comme le monde de dire, si on veut manger, il faut réguler un petit peu ça. Mmh. Parce que quand il y en a trop, tous les agriculteurs sont désespérés et font faillite, et quand il y en a pas assez, c'est les émeutes de la faim. Mmh. Donc, il y a, c'est prendre un énorme risque de dire, comme a dit hier, par exemple, le commissaire européen à l'agriculture, non mais la manifestation c'est bien, mais je ne veux pas changer parce que c'est contre la politique libérale. Ben, le libéralisme en agriculture, le marché, on le voit à l'œuvre, c'est-à-dire en permanence les petits producteurs qui font faillite, et puis les gros qui s'endettent de plus en plus, et une grande instabilité de
Alors, avant de parler de la régulation, j'aimerais que vous évoquiez un point précédent de Bruno Parmentier. Est-ce que les exploitants s'adaptent aux nouvelles tendances du marché, cette désaffection, par exemple, des consommateurs, dans les pays du Nord, en tout cas, pour la viande?
Je voudrais, si vous le permettez, dire un mot sur l'opposition que vous faites entre une agriculture intensive en production et respectueuse de l'environnement.
Oui, c'est important.
Il y a 20 ans,
c'est un débat permanent en ce moment.
Bien sûr, c'est un débat permanent. J'ai présidé pendant 5 ans le Forum de l'agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement, où nous avons montré qu'aujourd'hui, avec les techniques nouvelles, on arrive à mieux protéger l'environnement qu'auparavant. Il y a 20 ans, personne ne parlait d'environnement, ou très peu. Pas plus d'ailleurs dans la politique de la ville, dans la politique des déchets, que dans la politique des transports. Aujourd'hui, l'agriculture assume sa responsabilité environnementale. L'espace agricole, c'est 57% du territoire français. Donc, nous, agriculteurs, nous avons une responsabilité écologique plus importante. En France, il y a la moitié de la surface agricole qui est en prairie. Il y aura des prairies s'il y a de l'élevage. Donc, il faut aider l'élevage à s'en sortir en ce moment. Et sur les territoires français, il y a une très, très grande diversité. Il y a certes des exploitations intensives et très productives, mais il y a aussi beaucoup d'exploitations en zone de montagne. Il y a des vignes, il y a des forêts, il y a du maraîchage, il y a de l'arboriculture. Cette agriculture, elle est très, très, très diverse. Et trop souvent, dans les débats, c'est résumé à intensif d'un côté, extensif de l'autre.
Vous voulez dire qu'on ne peut pas régler tout de suite ?
C'est pas ça. C'est dire qu'il y a une très, très grande diversité. Donc, il n'y a pas un bâton, il n'y a pas une baguette magique et une recette miracle. On n'aura jamais autre chose que du reblochon en Savoie. On n'aura jamais autre chose que du roquefort en Aveyron. Et tant mieux. Et on n'aura jamais autre chose que des céréales dans la plaine de la Beauce où ce sont des terres adaptées à. Mais partout, il y a des problématiques environnementales qu'il faut prendre en compte. Alors, aujourd'hui, nous les avons identifiées.
Est-ce qu'on aura toujours des nappes phréatiques polluées et
elles
des algues vertes en Bretagne?
J'ai l'impression que vous parlez que c'est apocalyptique.
Absolument pas.
Les nappes ne sont pas polluées partout.
L'eau n'est pas potable.
Si, dans la majorité
des... En Bretagne, je parle.
Elle est potable en Bretagne. Il y a une amélioration de la qualité de l'eau. C'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de l'eau. Les nitrates ont diminué dans les nappes phréatiques bretonnes. C'est l'agence de l'eau qui l'a dit aussi. Il y avait 58 mg, donc ils ont été classés en zone d'excédent structurel. Ils sont redescendus aujourd'hui parce qu'ils ont investi, ils ont adapté leurs élevages et tout. Aujourd'hui, ils sont à 38 mg. Donc ça, c'est l'autorité publique et c'est l'agence de l'eau. Un travail considérable a été fait depuis que le problème environnemental est pris à bras le corps. Et le challenge, effectivement, comme le disait Monsieur Parmentier, c'est de produire plus et mieux avec moins. Moins d'impact sur l'environnement. Et les nouvelles connaissances aujourd'hui, les nouvelles variétés, les nouvelles espèces, le nouveau matériel, tout ce qui nous permet d'observer nos cultures, de faire des analyses de sol, des analyses de plantes, des analyses de lisiers, nous permettent ce qu'on appelle une agriculture de précision, où on intervient de façon beaucoup plus fine aujourd'hui pour polluer le moins possible, parce qu'on connaît les facteurs de pollution qui ont été à l'œuvre il y a quelque temps. Donc l'agriculture a fait sa mue qualitative. Il n'y a pas encore tous les résultats que nous souhaitons, mais les résultats s'améliorent, donc il faut regarder là où ils s'améliorent, là où il y a encore des points noirs, très noirs, et il faut les corriger. Mais oui, il est possible de produire plus et mieux. De plus en plus de scientifiques le disent et nous aident dans cette panoplie de solutions, tant en production végétale qu'en production animale. Moi, je suis producteur de porc. J'ai aujourd'hui une exploitation agricole qui tend vers l'impact négatif zéro. On a des bâtiments basse consommation d'énergie. On a des sols qui utilisent les lisiers et les fumiers des animaux, qui produisent de la nourriture qui est utilisée par les mêmes animaux. On a des bâtiments aux normes bien-être animal. En l'espace de 15-20 ans, on a métamorphosé notre exploitation. Mais c'est vrai, il faut du temps. Et puis, il faut un peu de rentabilité aussi quand même, parce qu'il faut investir.
D'accord. Alors, est-ce qu'on se dirige vers cette agriculture écologique dont vous parliez tout à l'heure, que vous semblez appeler de vos voeux, Bruno Parmentier?
Ben écoutez, oui et non, enfin c'est jamais assez rapide.
C'est l'agroécologie de Monsieur Le Foll.
Les changements, c'est toujours très compliqué. Je veux dire, chaque auditeur peut se dire, dans mon métier, est-ce que je peux changer radicalement toute la manière de produire? Donc, c'est vrai que y a aussi une affaire de génération. Voilà, les jeunes agriculteurs sont beaucoup plus sensibles à ces problèmes environnementaux que ceux qui arrivaient dans les exploitations dans les années 50 ou 60. Et puis, on ne peut pas juger uniquement ce qui s'est fait dans les années 60 et 70 à partir des problèmes d'aujourd'hui. En France, enfin en Europe, après la guerre, il y avait des tickets de rationnement. On avait faim, enfin on oublie ça, voilà. Il y avait des tickets de rationnement à Paris jusqu'en 1949. Et donc la volonté des Européens, c'était de dire « on veut manger ». Débrouillez-vous comme vous voulez, on veut manger. Et à ce moment-là, moi, quand j'étais étudiant dans les années 60 et 70, personne ne m'a expliqué que la Terre était limitée. On avait l'impression que l'espace était gigantesque, etc. Et maintenant, depuis 15 à 20 ans, on s'aperçoit, la planète se réchauffe vraiment. Et puis, les ressources sont vraiment limitées. Et il faut quand même accueillir ces 2 milliards de gens nouveaux qui vont arriver. Et puis, légitimement, par exemple, en Afrique, puisque beaucoup d'auditeurs sont en Afrique, il va falloir tripler la production agricole, quand même. Tripler. En Asie, doubler.
Bon, et donc, c'est pas par des méthodes.
Alors, l'idée, c'est que dans les pays tropicaux, où les forces de la nature sont très fortes, et où souvent la productivité actuellement n'est pas très forte, notamment en Afrique subsaharienne, qui est restée assez largement en dehors, on va dire, de la révolution verte, oui, on peut tripler la production agricole avec des méthodes agroécologiques. Et dans les pays tempérés, déjà très efficaces en agriculture, l'idée c'est de produire au moins autant, mais avec radicalement moins d'engrais, d'insecticides, d'herbicides et de pétrole et de tracteurs. Donc les deux sont des défis énormes, mais les deux sont possibles à condition qu'on s'y mette. Mais effectivement, on ne s'y met pas assez. C'est un peu comme le réchauffement de la planète.
Bon, on ne s'y met pas assez, Christiane Lambert.
Ça dépend beaucoup de l'accompagnement des politiques publiques. En Europe, il y a eu depuis une vingtaine d'années des politiques publiques qui ont accompagné, y compris financièrement, les agriculteurs pour faire des programmes de mise aux normes des bâtiments d'élevage, pour stocker les effluents d'élevage, parce que ça coûte très très cher. Il y a eu des incitations à des pratiques plus respectueuses de l'environnement, on a appelé ça des mesures agri-environnementales. C'est en 1990 que pour la première fois la politique agricole commune a parlé de développement durable. C'était 2 ans avant le sommet de Rio en 1992. Et en 1999, dans la politique agricole commune, il y a eu des éléments de conditionnalité, c'est-à-dire que vous devez respecter telle problématique environnementale pour avoir droit à vos aides. En 2005, il y a eu des sanctions financières pour ceux qui ne respectaient pas. Et en 2015, il y a aujourd'hui le verdissement. Donc on est encore monté d'un cran dans le verdissement de la politique agricole commune. Ça veut dire des exigences environnementales plus importantes pour percevoir les soutiens.
On a quand même l'impression qu'il y a des remises en cause de ces contraintes environnementales.
Alors, il n'y a pas une remise en cause des problématiques environnementales et de la nécessité de respecter l'environnement. Il y a une remise en question des normes qui sont parfois imbéciles. Moi, je vous donne un exemple. Quand la France décide, pour l'application de la directive nitrate, qui fait beaucoup parler d'elle, de fixer un calendrier d'épandage, c'est-à-dire des dates auxquelles on a le droit d'épandre et d'autres dates auxquelles on n'a pas le droit d'épandre, identique dans toute la France, de Calais à Perpignan et d'Angers à Metz, c'est ridicule. Le climat n'est pas le même, les sols ne sont pas les mêmes. En Anjou, la douceur angevine dit tout ce qu'elle veut dire. À partir du 15 janvier, l'herbe pousse. Alors que quand vous êtes à Metz, en Moselle, il gèle encore et rien ne pousse. Donc ça, vous voyez, ça fait partie des normes imbéciles.
Votre syndicat va quand même plus loin. Xavier Belin, qui est votre président, réclame un moratoire sur les normes environnementales.
Non, il réclame un moratoire sur les nouvelles normes. C'est différent. C'est-à-dire que les normes actuelles, on les a. Ce que nous souhaitons, c'est qu'elles soient remises à plat pour pas qu'on fasse différemment en France par rapport aux autres pays européens, on est sur un marché unique, on a une monnaie unique. Si on met des règles environnementales plus strictes, on se met des boulets aux pieds. C'est ce qui se passe. Les Allemands, les Espagnols, les Italiens sont en train de foncer parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Et nous, on régresse parce qu'on a mis des normes plus draconiennes. Et le moratoire, nous le demandons sur toute nouvelle norme, tant qu'elle n'a pas été étudiée pour voir si elle est égale à la règle européenne ou supérieure. Si elle est supérieure, il n'y a pas de raison. C'est comme si on vous disait à vous, journalistes, eh bien vous, en France, vous allez avoir une règle plus stricte que les obligations des autres pays. Vous ne comprendriez pas pourquoi. Eh bien, nous disons, à partir de maintenant, tout ce qui est nouveau ne devra pas être en distorsion de concurrence, en surtransposition par rapport aux autres pays. Ou alors, il faut changer le marché unique.
Bon, alors, est-ce que le niveau de pollution actuel n'oblige pas à prendre davantage en considération? Je pose la question à Bruno Parmentier.
C'est quoi la pollution dont vous parlez, monsieur? C'est quoi la pollution dont vous parlez?
Enfin, moi, personnellement,
Dans certaines régions, il y a de la pollution.
En Bretagne.
Ah ouais, attendez, voilà. Alors, la France n'est pas la Bretagne.
Non, mais
si
enfin, je veux dire, c'est quand même un gros producteur agricole et alimentaire.
Autres, écoutez, il y a beaucoup d'autres régions en France qui
on
vont
peut
pas
boire
être
l'eau du
de
robinet. On peut pas boire l'eau du robinet et on peut pas se baigner sur la plupart des plages qui sont bourrées d'algues vertes. J'en viens, madame.
2% des plages bretonnes qui ont été identifiées avec des algues vertes. Écoutez, moi je lis comme vous, ça vous fait rire, mais
ah
moi
oui,
je vous dis des chiffres.
Parce que j'en viens et je vous assure que j'ai fait le tour des plages bretonnes et que les algues vertes sont pratiquement partout.
Non, c'est faux. C'est faux, monsieur. Il ne faut pas faire d'un cas de la plage de Binic qui s'est soignée et qui va mieux aujourd'hui. Moi, je vous dis les chiffres réels, c'est 2% des plages qui ont eu des algues vertes. Il y en a aujourd'hui certaines en Normandie, oui, c'est vrai. Mais en Bretagne, il y a eu un énorme effort. Et il y a donc eu une réduction. Il y a même aujourd'hui des usines qui traitent les algues pour en faire de l'énergie.
Bruno Parmentier.
Alors, moi, je voulais dire, c'est quand même un énorme effort d'avoir dit on va se regrouper à 6, puis 8, 12, maintenant 28 pays pour avoir une politique alimentaire et agricole. Cela étant, on n'a pas été jusqu'au bout, parce qu'on a dit, pour les prix, on aimerait bien s'aligner sur le moins-disant mondial pour que limiter les augmentations de salaire avec des prix alimentaires qui ne sont pas trop forts. Ben pourquoi pas? Ensuite, on dit l'environnement, on aime bien ça en Europe. On veut les meilleures normes environnementales, à la fois pour l'Europe et puis à l'intérieur de l'Europe, comme l'a dit Christiane Lambert, de temps en temps, il y a des pays qui en rajoutent. Ben pourquoi pas, c'est très bien. Et puis ensuite, on dit, non mais pour les salaires, ça, c'est chaque pays reste différent. Il n'y a pas de politique sociale. Ce qui fait que, ben par exemple, en Allemagne, il n'y avait pas de SMIG. En France, il y a plus de charges sociales. En Allemagne, dans l'industrie du porc et du lait, ben, il y a beaucoup de salariés détachés de Bulgarie ou de Roumanie qui sont payés beaucoup moins. Et donc, ben, on peut très bien vouloir tout ça, à condition de dire, ben, dans ces cas-là, puisqu'on veut des choses relativement contradictoires, faut payer. Ça s'appelle la régulation, le soutien au prix, la régulation des quantités, l'aide à l'investissement. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est là que c'est fou, parce qu'on dit, mais non, nous, on est libéraux, on veut pas.
Ouais.
Et du coup, ben, tout ça va effectivement complètement exploser en vol. Et à la fois les efforts environnementaux, parce que ben, si les agriculteurs font tous faillite, ça va être beaucoup plus difficile de se nourrir en Europe.
Ça peut être le coût de l'alimentation qui est au centre du débat. Il faut accepter l'idée d'une nourriture qui de qualité qui se paye plus cher aujourd'hui. Vous avez 30 secondes juste pour cette question-là.
Non, l'agriculture, c'est l'alimentation, bien sûr, mais c'est aussi de très, très, très nombreux emplois. 14% des emplois français sont liés de près ou de loin à l'agriculture. Et sur l'alimentation, c'est vrai que nous avons la chance en France d'avoir une alimentation très diversifiée, originale, de qualité, accessible, puisqu'on peut manger pas cher ou on peut aussi acheter des produits de qualité. Il y a 20 ans, on consacrait 25% de son budget pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est 12%. Mais cette baisse de la dépense alimentaire, elle a dû être compensée par autre chose.
Bien, on n'en dira pas plus ce soir, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux, Bruno Parmentier, ingénieur, économiste. Je rappelle le titre d'un de vos livres, Manger tous, eh bien, c'est aux éditions du Seuil.
Et le dernier, Fin zéro. Ah, bah, peut-être, voilà, oui, ça intéresse. Peut-être.
Merci de cette information. Christiane Lambert, qui est la vice-présidente de la FNSEA, principal syndicat agricole français. Merci également à Florence Pons, Cécile Périllard, qui ont préparé et réalisé cette émission. Vous pouvez retrouver sur notre site internet. Demain, c'est mardi politique. Luc Châtel sera l'invité de la rédaction. Mercredi, on évoque le record de longévité sur le trône d'Angleterre que va battre ce jour-là la reine Elisabeth. Le débat, c'est tous les soirs à 19h40 heure de Paris sur RFI. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur la radio mondiale dans quelques secondes.